Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Émilie Julia.
Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Dans le cadre du voyage du pape en France, Canal Académie consacre plusieurs émissions au Vatican ainsi qu'au souverain pontife, membre de l'Institut de France. La rédaction de Canal Académie a notamment réalisé deux émissions consacrées aux académies pontificales, reflet du rayonnement du Vatican dans le monde, le Vatican dont l'influence est beaucoup plus importante qu'on peut le croire. Christophe Dicaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Canal Académie, historien, spécialiste de l'histoire diplomatique. Vous venez nous présenter l'Académie pontificale ecclésiastique.
Oui, effectivement, Émilie, l'Académie pontificale ecclésiastique est peu connue du grand public. Pourtant, au Vatican, elle a sans nul doute un rôle majeur. Elle a été créée en 1701 et l'Académie a pour but de former les diplomates du Saint-Siège. Elle a fourni pas moins de 5 papes à l'Église catholique. Alors nous connaissons bien les 3 papes contemporains, Léon XIII au XIXe siècle, mais aussi Benoît XV, hein, vous savez, le fameux pape de la Première Guerre mondiale, et bien plus près de nous, Paul VI. Cette académie a naturellement donné aussi de nombreux cardinaux et tout particulièrement des secrétaires d'État, l'équivalent de notre Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Alors le secrétaire d'État dirige effectivement la diplomatie pontificale. Actuellement, le cardinal Bertone occupe ce poste. Ce Salésien n'est pas passé par l'Académie ecclésiastique, mais son prédécesseur, Angelo Sodano, lui est passé par cette école. Les personnes qui se penchent sur l'histoire diplomatique connaîtront ou reconnaîtront aussi les noms de Raphaël Méridelval, secrétaire d'État de Saint Pie X, ou bien encore d'Agostino Casaroli, secrétaire d'État de Jean-Paul II, dont le rôle a été majeur. Il a été majeur notamment au moment de la conférence d'Helsinki, entre 1973 et 1975. Vous l'aurez compris, l'Académie ecclésiastique qui se trouve Piazza della Minerva à Rome a pour but donc de former ce corps diplomatique qui travaille au sein du Saint-Siège. Cette diplomatie moderne et récente, Lucien Belli, l'historien Lucien Belli, qui l'a présenté sur Canal Académie dans l'émission Un jour dans l'histoire, la date du XVIe siècle, eh bien ce n'est qu'en 1701, à l'aube du XVIIIe siècle, que l'Académie ecclésiastique voit le jour sous le pontificat de Clément XI.
C'est-à-dire, Christophe, que la diplomatie pontificale était inexistante avant 1701 ?
Alors naturellement non, Émilie, cette diplomatie existait bel et bien avant, on peut même dire dès les origines de la reconnaissance de l'Église catholique par l'empereur Constantin Ier en 313. On parlait à cette époque non pas de diplomate, mais d'émissaire ou bien d'envoyé, en latin de missi. Bien plus tard, les pontifes ont longtemps eu des secrétaires à leur disposition pour les questions diplomatiques. Au XVe siècle, nous possédons un texte du pape Calixte III qui en définit le nombre très précisément. Il souhaitait avoir dans son entourage 6 personnes dédiées à cette tâche diplomatique. L'Église, à cette époque, a un rôle majeur. Elle a un rôle majeur sur le plan diplomatique. Son rôle est de rechercher la paix, mais une paix catholique, à une époque où tous les États occidentaux étaient catholiques. Alors, ensuite, la modernisation des relations entre les nations, le développement du protestantisme, va en quelque sorte non pas éclipser, mais donner à la médiation pontificale un rôle non pas secondaire, mais de moindre importance en Europe. En revanche, la diplomatie moderne, en se développant, va instaurer des codifications et des règles. Dans ce contexte, le personnage de l'ambassadeur prend une dimension primordiale, le rôle de médiateur, le rôle d'arbitre ou bien la charge de celui qui représente un État à l'étranger se professionnalise progressivement. Eh bien, le Vatican n'échappe pas à cette évolution de professionnalisation et le besoin d'une école se fait sentir à la fin du XVIIe siècle. Le secrétaire d'État, lui, apparaît quelques années auparavant, en 1644 très exactement, sous le pontificat d'Innocent X.
Mais une académie, Christophe, n'est-elle pas un relais intellectuel ? N'est-ce pas le relais que devrait jouer l'académie ecclésiastique ?
Eh bien non, elle n'a pas ce rôle intellectuel. Elle n'a pas le rôle, par exemple, que peut avoir l'Académie pontificale des sciences, que nous découvrirons au cours d'une autre émission Point de mire. L'académie ecclésiastique n'est pas plus un centre de recherche comme l'Académie pontificale d'archéologie. Elle est tout simplement une école. Et son rôle est donc d'enseigner et de former des jeunes aux arcanes de la diplomatie.
Mais aujourd'hui, pourquoi le Vatican forme des diplomates ?
Eh bien, la réponse, Émilie, tient en une seule image. Vous l'avez en mémoire, je pense. Nous sommes en 2005, à l'occasion des obsèques de Jean-Paul II. Des dizaines et des dizaines de chefs d'État étaient au premier rang avec leurs épouses. Ils étaient là non seulement pour saluer un des plus vieux chefs d'État du XXe siècle, mais aussi tout simplement parce que ces chefs d'État étaient en représentation diplomatique. Le Vatican possède en effet des relations diplomatiques avec très exactement à ce jour 172 États de par le monde. Il s'agit de la troisième représentation diplomatique après les États-Unis et la France, ce n'est pas rien. Et même si le Vatican est le plus petit État du monde, il participe tout aussi bien aux travaux de nombreuses organisations internationales et d'organisations intergouvernementales. L'ONU, la FAO, l'UNESCO, bref, le Saint-Siège a des relations bilatérales et multilatérales comme n'importe quel État dans le monde.
Mais l'Église n'est pas un État politique comme un autre. Son rôle n'est pas proprement parler politique, mais plutôt religieux. Quelle est dès lors sa place dans les relations internationales ?
Eh bien, votre question est pertinente, Émilie. Effectivement, le souverain pontife est à la tête d'un État, mais il est surtout le chef des catholiques à travers le monde. Plus d'1,131 milliard de catholiques, selon l'annuaire statistique que vient de publier la librairie éditrice du Vatican. Ce n'est pas rien, cela représente 17,3% de la population mondiale. Eh bien, comme le disait André Frossard, l'académicien, le christianisme est la langue maternelle des Européens. Son influence est donc réelle. Elle est d'abord morale et pacifique. Ensuite, l'Église se doit de gérer ses rapports avec les États. La question de la protection, par exemple, des catholiques chinois, en est une des illustrations. La question de la Chine et des catholiques chinois est très complexe. Elle est au cœur de la diplomatie pontificale. Il y a encore un article cette semaine dans l'Osservatore Romano à ce sujet. L'action diplomatique vise donc à assurer, ici, la liberté religieuse là où elle est totalement ou quasi absente. Ensuite, la diplomatie gère aussi les rapports entre l'administration du Saint-Siège et les structures locales. Mais il arrive aussi que la diplomatie pontificale intervienne en dehors des questions religieuses. On sait que le Saint-Siège est intervenu dans les démarches visant à libérer Ingrid Betancourt. On sait que le Saint-Siège est toujours en première ligne dans les négociations sur la libération des otages des FARC encore aujourd'hui. En 1984, autre cas, elle évite un conflit armé entre le Chili et l'Argentine, qui se disputaient sur un territoire, le canal de Beagle. L'Église peut aussi faire tomber des régimes. Le rôle du pape dans la chute du communisme, sans être la cause unique, est là, pour nous le rappeler, cette chute du communisme est bien emblématique. La diplomatie est donc une composante majeure de l'Église catholique, et c'est pourquoi il existe cette école.
Revenons donc à l'académie et à l'école. Comment s'opère la sélection des étudiants ?
Alors, les élèves sont sélectionnés dans les diocèses du monde entier. Ils ont moins de 30 ans. Il y a une limite d'âge. On ne se présente pas. On ne fait pas acte de candidature. Et disons qu'on est remarqué. On est poussé par son évêque ou bien un autre évêque remarque un jeune prêtre dans un autre diocèse. Et à ce moment-là, il faut demander à l'évêque du lieu s'il est consentant puisque l'évêque qui voit partir un de ses prêtres doit approuver l'admission. Il faut être titulaire d'une licence en droit canon ou en théologie. Enfin, bien évidemment, il faut maîtriser au moins 2 langues étrangères, cela semble évident. C'est le même processus de sélection qu'au Quai d'Orsay.
1701-2001, le 300e anniversaire est récent.
Alors oui, il est récent, il a été marqué par un discours du pape Jean-Paul II, ainsi que par un sermon du secrétaire d'État de l'époque, je le citais tout à l'heure, Angelo Sodano. Vous retrouverez les textes, ces interventions sur Internet très facilement, sur le site du Vatican, vatican.va. Alors Jean-Paul II rappelle dans son texte les fondamentaux de la diplomatie pontificale. Il donne une importance à la question éthique débattue dans les instances internationales. C'est une question politique très importante qui est systématiquement débattue par les émissaires du pape, par les secrétaires, les nonces du pape. Mais Jean-Paul II fait surtout un acte d'espérance extraordinaire parce qu'on peut être marqué par cette différence entre ce petit État, au fond, de quelques kilomètres carrés, et cette influence. Eh bien, on pense qu'un tel État ne peut avoir une grande influence. Jean-Paul II, lui, enseigne le contraire. Pour ce faire, il reprend le passage de l'Évangile au cours duquel Jésus demande à ses apôtres, qui reviennent bredouilles de leur pêche, de jeter leur filet à un endroit précis. Malgré leur découragement, les apôtres s'exécutent. Jean-Paul II a demandé à ses élèves de ne pas céder aussi au découragement devant le monde moderne. Alors que parfois tout semble être contre l'Église, des victoires sont remportées, exactement comme ces pêcheurs qui, en dépit de leurs doutes, ont réussi à revenir avec énormément de poissons. Alors que parfois tout semble être contre l'Église, des victoires sont remportées. Elles nécessitent parfois de la patience, et vous n'êtes pas sans savoir que le temps de l'Église est bien plus long que le temps ici-bas. Un dernier point important, Émilie, la langue de la diplomatie pontificale est le français, ce qui doit aider Mgr Mamberti, qui est secrétaire pour les relations avec les États. Il s'agit d'un français. Il est à la tête de la diplomatie pontificale auprès du secrétaire d'État, le cardinal Berton, que j'évoquais précédemment. Alors, l'Académie, cependant, l'Académie ecclésiastique, elle est dirigée par un Italien, Mgr Beniamo, depuis 2007, Beniamo Stella. Alors, il est vrai que la nationalité italienne est importante au sein de l'Académie et de la diplomatie, mais elle n'est pas majoritaire puisqu'elle ne représente que 40% des effectifs.
D'accord. Et une dernière question, Christophe, nous parlons diplomatie, mais il s'agit de prêtres. Quelle place prend la prêtrise dans leurs tâches quotidiennes ?
Elle est, j'allais dire, primordiale. Ce sont des prêtres, vous ne pouvez pas rentrer à l'Académie ecclésiastique si vous n'êtes pas prêtre. Et c'est pour cette raison que le discours de Benoît XVI, le 9 juin dernier à l'Académie, tenait précisément à recentrer aussi le rôle de ces étudiants autour de la prière. Je me permets de vous citer un passage qui est assez long, mais qui est bien représentatif de ce que souhaite Benoît XVI, donc qui vient à l'Académie cette semaine. « Plongé dans le tourbillon d'une activité frénétique, l'humanité court souvent le risque de perdre le sens de l'existence, alors qu'une certaine culture contemporaine met en doute chaque valeur absolue et même la possibilité de connaître la vérité et le bien. » C'est pourquoi, dit le pape, il y a besoin de témoigner de la présence de Dieu, d'un Dieu qui comprend l'homme et qui sache parler à son cœur. Votre tâche, continue Benoît XVI, sera précisément celle de proclamer à travers votre façon de vivre, avant même qu'à travers vos paroles, les paroles diplomatiques, avant même donc qu'à travers vos paroles, l'annonce joyeuse et réconfortante de l'évangile de l'amour dans les milieux parfois très éloignés de l'espérance chrétienne. Et il continue sur la messe, sur l'Eucharistie, il dit que l'Eucharistie devienne pour vous une école de vie dans laquelle le sacrifice du Christ sur la croix vous enseigne à faire de vous-même un don total à vos frères. Le représentant pontifical, dans le déroulement de sa mission, est appelé à offrir ce témoignage d'accueil envers le prochain, fruit d'une union constante avec le Christ. Nous le voyons, le pape tient à montrer que le secret de la réussite au sein de la diplomatie est à la fois dans l'exemple personnel. Les représentants du pape doivent être des exemples. Donc l'exemple est aussi dans la pratique des sacrements. La pratique des sacrements doit être pour ces personnes très importantes et au premier rang desquelles, bien évidemment, se situe l'Eucharistie. Alors, décidément, oui, la diplomatie pontificale n'est pas une diplomatie comme une autre dans notre monde contemporain. C'est peut-être ce qui fait toute son aura à travers le monde.
Avez-vous des références ou une bibliographie à nous proposer, Christophe ?
Alors oui, malheureusement, très peu d'ouvrages existent sur la question. Comme souvent pour ce qui concerne l'Église, il est très utile de parler italien, mais je vais me contenter de vous donner des références françaises. Je citerai trois ouvrages et une source. Un ouvrage malheureusement épuisé qui fait autorité, un ouvrage collectif sous la direction de Joël Benoît d'Onorio, Le Saint-Siège dans les relations internationales aux éditions du Cerf. Cet ouvrage, à ma connaissance, n'a pas été renouvelé. Si vous le trouvez sur Internet, achetez-le parce qu'il est rare. Toujours chez le même éditeur, aux éditions du Cerf, un petit livre très utile d'un étranger, Michael Feldkamp, La diplomatie pontificale de Sylvestre Ier à Jean-Paul II, donc dans la collection Vue d'ensemble. C'est un petit ouvrage de moins de 150 pages qui est très utile et qui constitue une excellente introduction à la diplomatie pontificale. Aux éditions L'Harmattan, Le Saint-Siège sur la scène international, un livre de Jean-Yves Rouxel, R-O-U-X-E-L, donc Le Saint-Siège sur la scène internationale, un ouvrage préfacé par Mgr Roland Minrat, donc, dans la collection Logique juridique. Il s'agit d'une thèse qui a été remaniée pour la publication. Et enfin, la source. Il y en a bien évidemment des milliers, mais je vous donnerai l'unique source, à mon avis, qui me semble indispensable. C'est l'Osservatore Romano, distribué en France par le bimensuel L'Homme Nouveau. On y trouve chaque semaine des textes du pape relevant de la diplomatie. Mais on n'y trouvera ni ragots, ni rumeurs. Généralement, ce sont des textes et uniquement des textes qui permettent d'avoir une petite fenêtre, mais rien qu'une petite fenêtre, entrouverte sur la diplomatie pontificale, parce que, vous le savez, le Vatican n'étale pas son action politique dans les journaux.
Merci Christophe de nous avoir présenté l'Académie pontificale ecclésiastique et nous vous retrouverons bientôt pour une autre émission sur l'Académie pontificale des sciences.
C'est bien cela, donc à très bientôt.
À bientôt sur canalacademie.com.